Voilà 25 ans qu'a été créée par Christian et Marie-France Despalières l'association Pour un sourire d'enfant, appelée plus communément PSE. Cette association permet aux enfants travaillant sur la décharge de Phnom Penh au Cambodge d'être nourris, soignés et formés jusqu'à l'acquisition d'un métier. Aujourd'hui veuve, la cofondatrice de PSE est de passage à Toulouse pour une séance de dédicace à la librairie Priva de son livre Pour un sourire d'enfant, écrit à l'occasion de cet anniversaire. Bonjour Marie-France Despalières.
Bonjour.
Il y a 25 ans, à la faveur de la pré-retraite de votre mari Christian, vous êtes arrivée au Cambodge et avez découvert l'inimaginable. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première impression ?
On voyait dans les rues des petits chiffonniers qui étaient dans des états de crasse épouvantables, maigres, enfin des bobos partout. Bon. Et seulement, on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. On était, bon, de temps en temps, on mettait $1 dans leur sac, mais bon, on savait bien que ça servait à rien et que c'était complètement inutile. Ils sautaient de joie sur le moment, mais c'est tout, ça n'allait pas loin. On a eu la possibilité d'aller discuter avec eux, d'aller les voir et de leur demander un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait les aider, qu'est-ce qu'on pouvait faire.
Parce qu'ils vous ont emmené jusqu'à leur lieu de travail.
Voilà, ouais. Ils nous ont emmené jusqu'à la décharge. Et c'est là qu'on a vu l'impensable, quoi. C'était effrayant. Une décharge à ciel ouvert, avec des mouches, avec une odeur épouvantable, à vous donner envie de vomir. Des enfants qui étaient pieds nus là-dedans, avec un crochet, qui fouillaient pour ramasser des bricoles à revendre. Enfin, c'était horrible à voir.
C'était épouvantable.
Et on s'est dit, on ne peut pas. Donc, on avait fini notre mission. On s'est dit, on ne peut pas laisser ça, il faut faire quelque chose. Enfin, bon. On a commencé à apporter quelques repas le matin, mais bon, c'est un puits sans fond. Et donc, on est reparti très vite en France.
Vous avez eu un sentiment d'impuissance à ce moment-là ? Vous vous êtes dit, il y a tant à faire.
Oui et non, parce qu'on s'est dit en même temps, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne savait pas quoi. Par contre, on n'avait pas de moyens du tout, donc on est reparti en France pour aller chercher, appeler à l'aide. Enfin, voilà, on a fait une première petite tournée.
Alors, nous allons dérouler un petit peu la vie de ces 25 ans de Pour un sourire d'enfant, pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a une telle pauvreté au Cambodge quand vous y étiez en 1997.
Qu'est-ce qui s'est passé 93-94. Vous savez, le pays était complètement démoli. Et il sortait de 25 ans de la période Khmer Rouge. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus de. Les ministères n'existent plus. Il n'y avait plus d'enseignants. Ils avaient tous été tués parce que c'était des intellectuels. Ça commençait un tout petit peu à redémarrer. Sauf que toutes les familles, enfin, ce qui sont nos familles, les familles actuellement dont on s'occupe, sont des personnes qui n'avaient pas été scolarisées parce qu'il n'y avait pas d'école. Les Khmer Rouges, l'école était.
Donc pas d'éducation.
Pas d'éducation et donc pas de possibilité de se débrouiller dans la vie, quoi. Ils étaient tous en survie. Alors au départ, ce qu'on avait découvert, c'est la décharge. Depuis, on a pris en charge d'autres enfants dans des conditions aussi difficiles. Mais c'est pas essentiellement des chiffonniers. Le départ, c'était des chiffonniers. Maintenant, d'accord, il y en a encore, mais c'est pas la majorité.
Dans votre livre, vous décrivez un climat de violence dans les familles. À quoi c'est dû ?
Alors, c'est dû à la pauvreté. Vous savez, faut pas chercher bien loin. Quand on n'a pas de quoi se nourrir, quand tout va mal, on se tape dessus, on tape sur les enfants. Enfin, je veux dire, ça existe aussi chez nous, ce genre de choses. Donc, mais là, c'était beaucoup plus généralisé parce que c'était toute une frange de la population qui est complètement en dehors du développement.
Et des enfants que vous décrivez livrés à la prostitution dès un âge quand même très jeune.
Là aussi, très jeune. Enfin, je veux dire, tout ce qui pouvait rapporter quelques sous parce qu'il s'agissait, en fait, il s'agissait de survie.
Comment vous avez fait face à l'ampleur de cette tâche, ce premier sentiment d'impuissance et vous vous êtes dit, allez, on va y aller. Comment vous avez procédé tout au long de ces 25 ans ?
On est allé voir les enfants, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. On savait pas trop où il fallait aller, mais on voulait surtout que ça réponde à un besoin, pas quelque chose qu'on aurait imaginé, qui aurait été à côté de la plaque.
Oui, vous n'êtes pas arrivé avec vos idées toutes faites en disant voilà la solution.
Non, on n'avait pas de solution en fait. Et on leur a demandé, mais de quoi vous avez besoin ? Et ils nous ont répondu, un repas par jour et aller à l'école. Donc c'était clair, il fallait y aller. Mais on a démarré comme ça, un pied devant l'autre, sans faire de grandes projections. Simplement, quand il y avait un besoin, on a essayé de répondre aux besoins au fur et à mesure.
Alors justement, on va voir les grandes étapes successives. Vous avez évoqué cette distribution d'un repas par jour, la scolarité, l'école. Qu'est-ce qui a suivi après ?
L'école, ça s'est structuré un petit peu. Au début, on avait quelques enfants et puis on a commencé par les classes primaires. On avait même une classe qu'on appelait multiniveau parce que c'est des enfants qui avaient été scolarisés un petit peu, qui avait donc qui savait lire écrire et qui était qu'on a pris dans une classe à part, mais c'était très peu à l'époque. Il y avait je sais pas, on avait 120 enfants, enfin c'était pas ça allait pas très loin. Et puis on s'est dit on va pas aller plus loin, on va déjà déscolariser, les alphabétiser, et puis déjà ça aura changé leur vie.
Vous pensiez que ça suffirait en fait, lire et écrire?
À l'époque on se disait bon voilà, ça aura déjà changé leur vie, ils pourront peut-être se débrouiller. Et puis en fait on s'est aperçu que on avait des enfants au bout de peu de temps, puisque en fait on a démarré par du rattrapage. On les a pas mis à l'école publique. On a tout de suite commencé par faire des cours de rattrapage, c'est-à-dire 2 ans voire 3 par an, en s'axant sur l'essentiel, la lecture, l'écriture, le calcul, parce que on avait des enfants qui avaient 14 ans, qui n'avaient jamais été scolarisés. Bon, c'était pas possible de la mettre dans l'école publique, qui était à mi-temps, avec des enfants de 6 ans. On s'est dit, bon, voilà, on a démarré comme ça, on a commencé le rattrapage, c'était la première des choses qu'on a mis en place, qui dure toujours d'ailleurs. Et donc, très vite, il y en a qui sont arrivés au brevet. On s'était dit, bon, bah, ça va, maintenant, ils vont se débrouiller. Ben non, on l'a retrouvé sur la décharge. On s'est dit, là, c'est pas possible. Il faut aller plus loin. On n'a pas le choix. Il faut créer des formations professionnelles.
Quels sont les différents domaines dans lesquels vous avez développé cette formation professionnelle?
Alors, en fait, on a commencé par l'hôtellerie et puis secrétariat. En fait, maintenant, on a pas loin de 20 filières différentes dans l'hôtellerie, donc cuisine, pâtisserie, service de table, service d'étage, blanchisserie, coiffure esthétique, réception. Ensuite, on a une école. Alors ça, c'est la seconde, ça a été la mécanique, réparation et maintenance de voitures et de motos. Il y a eu aussi des métiers du bâtiment, installation sanitaire et climatique, maintenance générale des bâtiments, installation électrique.
Et la dernière en date, la dernière formation que vous aviez pu
mettre sur
pied?
La dernière en date, c'est l'école de cinéma. Ah. Ça, c'était la passion de Christian et il s'est énormément investi là-dedans. Les cours avaient lieu chez nous, dans notre maison à ce moment-là. Et puis maintenant, bon, bah, maintenant ça marche. Ça marche même pas mal puisqu'il y a des films auxquels il participe et qui ont été primés dans plusieurs festivals internationaux. Enfin bon, ça marche très très bien.
Puisque vous parlez de cinéma, Marie-France Despalières, je signale le film de Xavier de Lausanne qui est sorti en 2016, qui s'intitule Les Pépites, qui a quand même contribué à bien faire connaître l'association.
Absolument.
Pour un sourire d'enfant.
Qui a ouvert, effectivement, qui nous avait ouvert beaucoup de portes. Nos étudiants de l'école de cinéma y ont participé.
Oui, donc c'est très concret. Vous avez aussi bénéficié, outre ce coup de projecteur, vous avez bénéficié de soutien en fait des différents ministères au Cambodge. C'est une forme de reconnaissance pour vous?
Je voudrais juste vous dire une chose. Il y a une école de commerce, en fait, on dit gestion et vente, parce que mais parce que en fait, on cherchait des managers. Puisqu'en fait, nos 95% de nos personnels est cambodgien, mais on trouvait pas de manager formé. Du coup, on s'est dit, ben, on va en former. Et donc, on a maintenant une école qui fait administration comptabilité, qui fait ressources humaines, vente, gestion, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, les choses ont évolué, évidemment.
Voilà, donc à chaque fois, à chaque niveau, vous avez su vous adapter et apporter la réponse, en fait, aux besoins des enfants et des jeunes qui grandissaient.
Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et alors, on a plusieurs niveaux de formation. Il y a des formations qui sont des bacs pro qui démarrent après le brevet. Et puis on a des BTS et on a aussi des licences. Voilà, pour ceux qui ont passé le bac.
La crise sanitaire, Marie-France Despalières, qui a quand même touché aussi le Cambodge, est-ce que ça a impacté les enfants de PSE?
Ah bah énormément, parce qu'on a été fermé, l'école a été fermée pendant pas loin de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je suis fâchée avec les chiffres, moi. Enfin, on a été fermé pendant très longtemps. Les internats ont été fermés aussi. Et enfin, bon, c'était compliqué. Et là aussi, il a fallu s'adapter, pas les laisser tomber, parce que toutes ces familles qui ont des petits métiers, qui sont chiffonniers, ou qui vendent des coquillages ou des fleurs dans les rues, ou qui lavent le linge des autres, qui sont des ouvriers de construction, mais ouvriers journaliers, sans garantie du lendemain. Enfin, bon, tous ces métiers-là, ils se sont effondrés, bien évidemment. Le tourisme aussi, ce qui a impacté nos jeunes qui étaient
sortis de formation tourisme.
Sortis de formation, oui,
et hôtellerie. Comment ils vont, les enfants, aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, moi, je viens d'apprendre avec bonheur que on n'a pas eu beaucoup plus de décrochages que les années précédentes. Nos équipes là-bas se sont démenées d'une manière incroyable pour garder le contact avec les familles, pour les nourrir, parce que nous nourrir et même payer des loyers. Ces petits loyers d'une petite cabane, c'est pas grand-chose, mais enfin, ils n'y arrivaient plus, parce que sans boulot, c'est pas possible, quoi. On a distribué des paniers alimentaires très régulièrement, avec des complications, parce que il y a des périodes où les familles ne pouvaient pas venir jusqu'au centre, donc les équipes sociales allaient les distribuer aux barrières, puisqu'il y a eu des confinements par zone. Oui, donc il fallait porter ça aux barrières des villages. Les professeurs ont donc mis en route de l'enseignement à distance. Mais vous imaginez, là où habitent, en périphérie, en grande périphérie de Phnom Penh, là où habitent nos familles, les réseaux Internet ne sont pas bien stables.
Oui, donc difficile de suivre l'école.
Très compliqué. On a payé des forfaits de connexion pour qu'ils puissent
suivre les cours.
Des smartphones.
Et vous vous êtes adapté encore.
Bon an mal an, oui, oui. Et puis de toute façon, il y a eu des professeurs et d'autres personnes du personnel aussi, donc avaient chacun un nombre d'enfants à contacter régulièrement, 2-3 fois par semaine, pour être sûr qu'ils ne décrochent pas, pour être sûr que tout aille bien, pour voir s'il y avait des problèmes à régler, de toutes sortes.
Il y a eu un suivi au jour le jour, un gros travail qui a été fait. Marie-France Despalières, pour informer nos auditeurs, vous êtes évidemment soutenue par des équipes locales. Vous en parliez au début de cet entretien. Les équipes, notamment en Midi-Pyrénées, sont extrêmement dynamiques.
Oui, c'est une des équipes très dynamiques, effectivement. Voilà.
Et je rappelle à nos auditeurs donc la séance de rencontre et dédicace de votre livre Pour un sourire d'enfant aux éditions Albin Michel, que vous assurerez donc ce soir à 17h30 à la librairie Priva. Et je signale aussi que vous serez de retour à Toulouse le jeudi 10 mars à 20h30 au lycée Sainte-Marie-des-Champs pour une présentation plus détaillée des actions de PSE. Voilà. Et puis il y aura aussi d'autres événements à prévoir, notamment à Albi. Merci beaucoup Marie-France Despalières de nous avoir accordé cet entretien et longue vie à PSE.
Il faut que ça continue parce que les problèmes, même si le Cambodge se développe, vous savez, ceux qui n'ont pas de formation, ils ne rentrent pas dans le développement. Voilà. Il faut vraiment les aider, il faut vraiment et puis surtout faire en sorte que que les jeunes trouvent un métier sincère et puis puissent aider leur famille après.
Merci beaucoup Marie-France Despalières.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.